Merci pour cette introduction. Je vais lire un petit texte pour commencer, puis après on discutera avec Vincent et David ici. Alors, Cliquer l'archive, c'est le nom du colloque. On se demandait un petit peu comment appeler ça, et puis finalement, c'est venu tout seul. L'archive, c'est pas la poussière entre les rayons d'une bibliothèque oubliée, mais le sang dans les veines d'une société vivante. Sur le site Monoscope, plateforme de recherche sur les arts, la culture et les humanités, et ressources éducatives indépendantes en ligne, fondée en 2004, on trouve l'ouvrage de Gunther Anders, L'obsolescence de l'homme sur l'âme à l'époque de la deuxième révolution industrielle, écrit en 1956, dans lequel on peut lire ceci. Introduction. Les condamnés à mort peuvent décider librement s'ils veulent, pour leur dernier repas, que les haricots leur soient servis sucrés ou salés. Extrait d'un article paru dans la presse. Parce qu'on a déjà tranché au-dessus de leur tête, nous aussi, nous pouvons décider de nous faire servir comme plat du jour l'explosion d'une bombe ou bien une course de bobsleigh. Parce que, au-dessus de nos têtes, à nous qui opérons ce libre choix, avant même notre libre choix, on a déjà tranché. On a déjà décidé que c'est en tant que consommateur de radio ou de télévision que nous devons opérer ce choix. En tant qu'être condamné, au lieu de faire l'expérience du monde, à se contenter de ces fantômes, en tant qu'être qui, au fond, ne souhaite plus rien, pas même une nouvelle liberté de choix, qu'ils ne sont d'ailleurs sans doute même plus capables de se représenter. Le jour où j'exprimais ces idées lors d'un colloque consacré à la culture, on m'interrompit pour me dire qu'après tout, on était toujours libre d'éteindre son appareil et même de ne pas en acheter. On était toujours libre de se tourner vers le monde réel et seulement vers lui. Ce que je contestais. Parce que, en réalité, on n'a pas moins tranché au-dessus de la tête des grévistes que des consommateurs. Que nous jouions le jeu ou pas, nous le jouons, parce qu'on joue avec nous. Quoi que nous fassions ou que nous nous abstenions de faire, notre grève privée n'y change rien, parce que nous vivons désormais dans une humanité pour laquelle le monde et l'expérience du monde ont perdu toute valeur. Rien désormais n'a d'intérêt si ce n'est le fantôme d'autres instruments et qui leur impose à son tour par son existence même le besoin de nouveaux instruments. Affirmer que ce système des instruments, le macro-instrument, ne serait qu'un moyen et qu'il serait donc à notre disposition pour réaliser des fins que nous aurions d'abord librement définies, c'est complètement absurde. Ces systèmes des instruments du monde est notre monde, et un monde est tout autre chose qu'un moyen. Il relève d'une autre catégorie. Fin de citation. L'information et la donnée, c'est ce qui peut faire l'objet d'une activation. C'est en ce sens qu'un objet est archivé. Préserver le présent et ainsi l'envoyer dans un futur plus ou moins distant, c'est aussi réfléchir sur les biais et les filtres qui conditionnent le passé, les règles mêmes qui déterminent ce que nous sommes en mesure de connaître. À travers la stratigraphie comme archive du temps profond, la géologie étudie la vie. De la même manière, c'est à travers l'étude des archives des siècles passés que la recherche académique et l'exploration pragmatique sont en mesure d'étudier la formation des idées esthétiques, des pratiques artistiques. L'étude des archives nous renseigne aussi sur les modes qui conditionnent ce que nous nommons avec légèreté l'histoire de l'art. Comme s'il s'agissait d'une suite objective d'événements majeurs faits de chefs-d'œuvre, de gestes héroïques, plutôt que d'un buissonnement de tâtonnements et d'expériences reproduites et déclinées jusqu'à pénétrer le domaine du marché de l'art. Ainsi, le dadaïsme soumis au régime idéologique de la psychanalyse est devenu porte-étendard d'un marxisme de salon, serait-il devenu le surréalisme ? On en oublierait presque que l'évolution stylistique qui précède la Première Guerre mondiale était aussi une réflexion collective sur les modalités de la représentation et sur la manipulation du sens. Les sciences de l'information sont, en un sens, une suite logique à cette obstination des artistes à décomposer le réel en unités toujours plus petites. De la mosaïque carthaginoise au pixel art Super Nintendo, du pointillisme pointilliste au collage dadaïste berlinois, du ready-made au Merz, de la géométrie analytique à la Démosthène, de la cybernétique de Norbert Wiener à la révolution électronique de William Burroughs, on trouve dans l'histoire des idées une infinité de raisons de penser que l'information n'est pas nature morte, mais matière vivante. À travers ce que l'on peut appeler libre agencement de contenu informationnel, le régime d'expérience proprement artistique donne préséance à la mise en mouvement, à la remédiation par le sensible de données par nature en voie de disparition. Pourtant, l'informatique nous arrive de manière chaotique. Pourtant, l'information nous arrive de manière chaotique. Comme le pharmacon grec, elle peut être remède à l'ignorance, psychotrope addictif ou poison à l'échelle sociétale. Prendre un pas de recul, c'est aussi ce que notre société semble dans l'incapacité de faire. Nos archives n'attendent pas, elles se décomposent. Il importe donc que nous puissions entendre clairement les enjeux de nos méthodes d'archivage, ludiques ou institutionnelles, libres, gratuites ou payées indirectement à travers l'exploitation de nos données. Fin 2023, le village global de McLuhan n'a jamais été plus réel, et pourtant, ses habitants se retrouvent comme ségrégés dans des bulles informationnelles où la tautologie fait loi. L'art peut-il jouer un rôle pour interrompre ce processus ? L'art, point de vue sur l'infinie diversité des points de vue humains, peut-il encore nous réveiller de notre sommeil dogmatique ? À l'heure où le catastrophisme connaît un certain renouveau, il s'agit de réveiller non la conscience de classe, mais une conscience d'espèce, enfermé entre désespoir et démesure. Comme on peut le lire sur Wikipédia, encyclopédie en ligne collaborative et multilingue créée en 2001, Louis Janover a décrit, dans un article paru dans Le Monde en 1981, l'écrivain roumain Panaïs Istrati en ces termes. Istrati décrit l'exploitation impitoyable des travailleurs par une bureaucratie prête à tout pour défendre ses privilèges. Fin de citation. Je lis l'article Wikipédia maintenant. L'ouvrage, en 3 volumes, contient la fameuse réplique d'Istrati à l'un des leitmotifs de l'argumentaire communiste. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Panaïs Istrati reprend donc. Je vois bien les œufs cassés, mais où donc est l'omelette ? Vincent Rioux et moi-même souhaitons dédier ce colloque à la mémoire de Vera Molnar, artiste française d'origine hongroise, née en 1924, que certains articles célèbrent comme la mère de l'art génératif et qui nous a quittés le 7 décembre 2023. Dans une interview accordée en 2022 à Right Click Save, magazine qui cherche à susciter une conversation critique sur l'art et sur la blockchain, Vera Molnar se positionne ainsi. Que signifie pour vous le mot génératif et pensez-vous que cela décrit fidèlement votre travail ? Vera Molnar. Tout d'abord, je ne sais pas ce que signifie génératif. Et pensez-vous que... C'est un mot anglais, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que cela veut dire ? La revue reprend. Cela dépend bien sûr à qui vous le demandez, mais il s'agit d'art réalisé à l'aide d'un algorithme. Ainsi, cela peut faire référence à des artistes travaillant avec des ordinateurs, mais pas nécessairement. Vera Molnar. Je comprends. Super. Cela s'applique également à la période avant les ordinateurs. Disons que vous pouvez adopter 2 approches différentes pour créer de l'art. Un point de départ est de dire « Je suis un génie sanctifié, je sais tout et ce que je fais est du génie. » Picasso disait « Je ne cherche pas, je trouve. » L'autre approche est totalement à l'opposé de celle-ci. C'est beaucoup plus modeste. J'aimerais comprendre, saisir. Et cette approche se tourne très vite vers les algorithmes. L'une de mes premières œuvres réalisées à l'aide d'un algorithme était pour la couverture d'un recueil d'œuvres sur le compositeur Pierre Barbeau. C'était encore fait à la main, bien sûr, avec la machine imaginaire. Depuis mon enfance, d'accord, c'est peut-être une exagération, mais depuis très longtemps, j'ai cette idée en tête. Je ne trouve peut-être pas, mais je cherche. Voilà, j'en ai fini avec ce texte écrit, et peut-être que Vincent Rioux pourrait reprendre la balle au bon et nous parler un petit peu de Vera Molnar pour ouvrir... le colloque et pour lancer tout ça sur de bonnes bases.
Je te remercie. Merci en tout cas Benjamin pour cette introduction. On a évoqué la mémoire de Vera Molnar. Bon, moi j'ai dit, Benjamin m'a proposé un petit texte sur elle et puis effectivement de dédier en fait ce colloque à sa mémoire. Bon, moi Vera Molnar ça a compté pour moi parce que quelque chose d'un petit peu personnel, mais moi j'ai pas mal pratiqué l'art. Alors je ne sais pas si c'est génératif ou dégénératif ou quoi, j'en sais pas, mais en tout cas j'ai codé, j'ai utilisé l'informatique pour produire soit des images, soit du son. Et je le fais encore. Voilà, donc l'algorithme, pour moi, c'est une espèce de matière. Alors ça, peut-être qu'on abordera la question. On a commencé déjà à parler de la question de la matérialité et du numérique, qui me semble être assez centrale. Et c'est vrai que quand j'ai découvert le travail de Molnar, bah, ça a été un peu une révélation, parce que ça cochait beaucoup de cases pour moi. Enfin bon, voilà, ça, c'est quelque chose qui était vraiment en résonance avec ce que j'essayais de faire à l'époque. Sauf qu'effectivement, elle n'a pas toujours utilisé l'ordinateur. Et donc, c'est de revenir à la notion de ce que c'est qu'un algorithme. Donc, rappeler en fait toute la genèse en fait de ce terme, qui évidemment est lié aux mathématiques, et la façon dont on crée un process en fait, hein, avec différentes étapes. Et je trouvais que oui, ça s'adaptait tout à fait à ce qu'on essayait de faire ici. C'est de réfléchir au numérique non pas aussi comme quelque chose de nécessairement négatif, mais dont on peut se servir, s'appuyer, éventuellement le considérer comme une matière. Alors ça, c'est, je ne veux pas non plus insister trop, mais c'est quelque chose un peu une obsession pour moi, c'est cette question de la matérialité du numérique. Et je pense qu'on va aborder cette question plus en avant. Voilà, je ne sais pas si c'est un rebond adéquat.
Oui, mais... c'est pas mal. Et je ne suis pas du tout spécialiste de Vera Molnar, mais il me semble qu'elle n'a pas forcément codé ses œuvres.
Elle non, avait... c'est ça.
Une démarche un peu collaborative comme ça. C'est peut-être important, ça aussi, oui, du point de vue de la base digitale, cette idée de collaboration entre des gens qui ont des aptitudes. Et...
Oui, bah, alors, si je dois parler aussi de ce qu'on essaie de faire à l'école, on essaie effectivement de monter... quelque chose qui ressemblerait à du travail un peu collectif. Et peut-être que ce colloque aussi, c'est un exemple de ce qu'on essaie de proposer à l'école, c'est d'essayer d'ouvrir en fait un maximum le champ d'expérience avec des choses qui sont souvent considérées à l'école comme peut-être des choses techniques, hein, c'est-à-dire le numérique, c'est souvent vu comme quelque chose comme une technique et guère plus, ce qui est parfois un peu étrange parce que moi j'ai plutôt envie d'en parler comme une sorte d'environnement dans lequel on serait tous plongés. Donc ça, évidemment, il y a des choses qui sont très liées, à de l'ingénierie, ça c'est sûr, mais pas uniquement. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, pas uniquement, ça c'est clair. Beaucoup plus que ça. Et l'enjeu du collectif, ça c'est autre chose, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je pense qu'on l'a compris. Et puis voilà.
Ok, et ben peut-être qu'on va enchaîner directement avec notre premier invité, donc qui a grandement participé à la mise en place de ce colloque, David Benoît, ici présent. Donc peut-être tu te présentes en deux mots.
Oui, bien sûr. Bonjour à tous et à toutes. Donc je suis David Benoît. Je suis conservateur à la Bibliothèque nationale de France. Je travaille au service multimédia au sein du département son, vidéo, multimédia, qui s'appelait auparavant le département de l'audiovisuel. Et donc qui a la charge depuis de nombreuses années de gérer le dépôt légal de tout ce qui est son, image animée, comme on disait auparavant, et puis maintenant le multimédia et les documents électroniques.
Ah, très bien. Ben ça, ce dont parlait Vincent, quand même, on le retrouve aussi à la BNF, l'idée que le numérique, c'est juste comme... Une patte quoi, d'un énorme organisme, mais en fait une patte qui porte énormément de poids finalement, non ?
Oui, alors on a la chance en France d'avoir un dispositif du dépôt légal alors qui remonte à quelques centaines d'années, mais qui a été étendu au fil du temps à tous les nouveaux médias, au fur et à mesure qu'ils apparaissaient. Donc en 1925, le dépôt légal a été étendu aux documents sonores et aux photographies. En 1975, il a été étendu aux vidéogrammes, comme on disait, et puis aussi à tout ce qui était multimédia, multisupport. Et en 1992-93, il a été étendu aux documents électroniques, donc ce qui incluait les logiciels, les bases de données, les jeux vidéo, et puis aussi l'art numérique. Donc tout ce qui, à l'époque, était plutôt édité sur support. Et donc il y a eu comme ça une extension progressive du dépôt légal à tous les nouveaux types de médias, et ça continue d'ailleurs, parce qu'en 2006... On a eu le dépôt légal étendu à tout ce qui est diffusé sous forme de signal, donc tout ce qui est dématérialisé, ce qui inclut le dépôt légal aussi du web français. Donc ça, on pourra peut-être en parler.
Oui, ça, on peut peut-être en dire deux mots, parce voilà. Que peut-être en introduction, c'est quand même très important. Je ne sais pas si vous saviez que le web était patrimonialisé.
Voilà, ça fait partie des obligations. Le principe du dépôt légal, c'est de... Alors, la BNF n'est ni un musée, ni des archives. C'est une bibliothèque nationale. Le principe du dépôt légal, c'est de garder quelque part une trace de tout ce qui a été édité et distribué en France. Donc, pas seulement que les productions françaises, mais tout ce qui participe de la vie culturelle en France, qui peut avoir une influence sur les débats et la vie culturelle du pays à une époque donnée. Donc, au départ, c'était les imprimés. Et puis, forcément, maintenant, tout ce qui est de l'image... du son, et puis maintenant tout ce qui se dit en ligne, c'est aussi des choses qui sont distribuées à un public français qui participe à la vie de la société, et donc c'est normal que ça rentre dans les collections de la BNF. Et donc depuis 2006, cette obligation du dépôt légal, alors en fait il y a eu du dépôt légal rétrospectif pour le web, hein, on a racheté des archives à Internet Archive, donc on a des choses depuis 1996. Et puis, depuis, on a... alors, c'est pas mon département qui gère ça, c'est le département du dépôt légal et le service du dépôt légal numérique qui va comme ça archiver périodiquement le web français. Alors, déjà, qu'est-ce que le web français? On pourrait en discuter. Et puis, archiver le web, qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas en mesure de conserver une version de toutes les pages dès qu'une virgule est changée sur un site web. Donc, on a des principes très généraux de ce qu'on appelle les collectes larges, où on a des accords avec les hébergeurs français qui vont nous envoyer la liste de tous les sites web qui sont édités, on va dire, par des Français et des Françaises. On va envoyer des robots qui vont aspirer les sites web de manière assez superficielle, parce qu'on est, je crois, un peu plus de 6 millions de sites identifiés qu'on va archiver périodiquement chaque année. Et donc ces collectes larges, on va envoyer le robot sur la page d'accueil, il va aspirer un certain nombre de clics, il a un quota de clics par site, et quand il a fini sa collecte, il va passer au site suivant. Donc on a comme ça un dépôt légal qui n'est pas exhaustif, mais représentatif, on a une obligation de représentativité. Le chercheur et la chercheuse du futur va pouvoir retrouver la page d'accueil et puis quelques clics derrière. Par contre, pour des sites qui nous paraissent importants, et là ça repose sur les collègues dans chaque département thématique, on va avoir des collectes ciblées, où là, on va dire, ce site web, il est très important pour telle thématique, et donc il faut l'archiver en entier et de manière plus régulière. Et donc tout ça, après, va être consultable sur des ordinateurs qui se trouvent au niveau recherche de la BNF. On ne met pas ça en ligne, hein, on respecte le droit d'auteur, donc il faut venir dans les emprises de la BNF pour avoir accès à ces archives du web français, qui sont beaucoup plus riches que ce qu'on trouve sur Internet Archive, par exemple, qui archivent aussi beaucoup de Français, mais pas aussi souvent que nous, et pas avec les mêmes moyens.
Et voilà, donc c'est dans le cadre de cette discussion qu'est née l'idée de ce colloque. Parce que dans nos échanges, en fait, moi je me suis rendu compte, j'ai appris en fréquentant la BNF et en entendant parler de toutes ces choses-là, qu'on avait quand même affaire à un peu un naufrage quand même. Parce que par exemple, David me disait, au début, quand la plateforme Twitch est apparue, ça a été quelque chose qui était au début mineur, mais qui permettait donc de rediffuser en direct des choses.
Et je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que Twitch. C'est un espèce de YouTube. Pardon, mais c'est, bon, YouTube, tout le monde sait ce que c'est. C'est un espèce de YouTube vraiment orienté live et qui a notamment été beaucoup utilisé par les gens qui font du jeu vidéo pour regarder des parties de gens faire du jeu vidéo. Donc on regarde à travers Twitch des gens jouer à un jeu vidéo. Aujourd'hui, c'est utilisé pour plein d'autres choses, notamment pour... s'exprimer en fait devant son ordinateur et du coup de partager des opinions ou des expériences sur un ordi à d'autres personnes. Donc c'est quand même assez étonnant, c'est presque un peu récursif comme média, c'est quelque chose qui est arrivé après YouTube et qui n'était pas si évident à prévoir. Enfin pardon, mais je pense
que... Oui, et le drame de Twitch, c'est que c'est du direct principalement. Il y a des Twitchers qui archivent leur live sur YouTube, mais la base de Twitch, c'est diffusé en direct et après, ça disparaît au bout de quelques jours. Et donc, si ce n'est pas préservé quelque part, on n'en a plus trace.
Et donc, ce que me disait David à l'époque, c'est pendant les premières années de l'existence de Twitch, eh ben, on n'a pas pu archiver. Donc, en fait, on a perdu irrémédiablement ce qui se passait à l'époque et on n'aura jamais la possibilité de le recouvrir.
Si je puis me permettre, c'est quelque chose dont on va peut-être parler aussi un moment, mais c'est l'espèce de retour à l'oralité à travers la technologie du XXIe siècle. C'est-à-dire que, voilà, contrairement à YouTube, c'est une forme. Ça se discute, hein, j'entends, mais c'est en tout cas effectivement quelque chose qui a l'air d'être hyper technologisé, très, très, c'est quand même complexe, et qui finalement est perdu à jamais, parce que c'est du live.
Et donc la deuxième question, moi, qui m'a beaucoup fait réfléchir dans voilà, ce contexte-là, c'était la question de l'échantillonnage. Parce qu'on a dit, voilà, il y a certains sites qui sont archivés parce que certains pôles de conservation voilà, indiquent l'importance de ces sites. Mais en fait, là, il y a une question d'accès en fait, à l'archivage. Qui décide de quoi sera archivé? Est-ce que ça se passe sur une base affinitaire, élective? Comment est-ce qu'on sélectionne ça? Dire, dans un sens un petit peu peut-être presque anarchiste, il faudrait, si je devais prescrire quelque chose, moi je serais d'avis que ça doit être arbitraire. Ça veut dire que pour échantillonner correctement le réel, il ne faut pas avoir des préférences. Parce que sinon, on arrive à une réalité complètement biaisée. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup occupé dans l'idée que, en fait, je ne sais pas si c'est vrai. Ça, pour le coup, personne ne pourra le vérifier. Et je le dis parce que je l'ai entendu dire, je ne sais plus d'où ni quand, donc ce n'est vraiment pas sourcé. Mais pendant la pandémie, je crois, on m'a dit que peut-être Gallica a failli devenir le YouTube français, mais en fait, il y a eu des histoires avec la SACEM et YouTube, du coup, ça ne s'est pas fait. Alors, peut-être que c'est faux, mais j'aime bien cette légende parce qu'elle indique en fait à quel point un outil qu'aujourd'hui, la grande majorité des gens n'utilisent pas, Gallica, parce qu'on va se plaindre que ce n'est pas ergonomique ou qu'on ne trouve pas ce qu'on veut, etc. Ce truc-là qui est gratuit et qui ne profite à personne, personne ne peut réutiliser vos données sur Gallica, et ben, finalement, ça aurait pu être notre chance pour avoir une façon d'archiver tout ce qu'on fait, en fait, mais ça ne se fait pas, parce qu'il y a des questions politiques qui dépassent complètement notre entendement. Alors, pour redonner la parole à David et peut-être dépiéger la discussion, parce que là, quand même, je ne suis pas forcément très sympathique en tant qu'interlocuteur, à la BNF, on archive aussi les lolcats, n'est-ce pas?
Oui, ce qu'on appelle le web de loisirs, les pratiques informelles, etc. Alors, on est d'ailleurs pas les seuls à archiver. Je vais le préciser pour mes collègues. Le dépôt légal de l'audiovisuel en France, il est aussi réparti dans deux autres institutions. Il y a le CNC qui s'occupe du cinéma, et puis aussi l'INA qui s'occupe de tout ce qui est diffusé à la télévision et à la radio. Et on parlait de Twitch. Ben, il y a des questions de périmètre qui se posent de plus en plus. Est-ce que Twitch, c'est de la télévision? Est-ce que ça relève du dépôt légal de l'INA ou de la BNF? Et ça, c'est des questions qui se posent régulièrement pour tous les nouveaux types de médias. Les podcasts, est-ce que c'est de la radio?
Exact, oui. C'est vrai que les podcasts, ça, on en avait parlé avec notamment David Christoffel, les podcasts de tout l'espace culturel francophone, en fait, est-ce que mériterait pas d'être archivé? Mais où alors? Et pendant qu'on se pose la question, les choses ne sont pas archivées et donc risquent de disparaître.
Voilà, donc c'est des questions qu'on se pose. Tu parlais de la possibilité de faire des tirages au sort pour être objectif sur ce qu'on va garder pour le futur. C'est vrai qu'une des missions qu'on a, qui n'est pas facile du tout, et c'est pour ça qu'on aime bien travailler avec des chercheurs et des chercheuses, c'est la question qui se pose, c'est de savoir ce qui sera intéressant pour la recherche à l'avenir, dans 50 ans, 1200 ans. Il y a des choses qui nous paraissent absurdes ou pas intéressantes aujourd'hui, et puis dans 100 ans, ce sera peut-être le contraire. Il y a plein d'exemples comme ça où on s'aperçoit que des choses anodines sont devenues importantes. Moi, je m'occupe beaucoup de jeux vidéo. Mais en fait, pour l'apparition du jeu vidéo en France dans les années 70, maintenant, on a des chercheurs, ils vont regarder en fait ce qui était vendu sur les catalogues de la Redoute et des Trois Suisses ou dans la presse foraine, ce qui est apparu dans les foires, parce que c'est là où on a les premières traces de l'informatique de loisirs en France. On n'aurait pas, heureusement que ça a été gardé, qu'on garde tous les catalogues des Trois Suisses et de la Redoute à la BNF. Parce que voilà, ça devient une source de recherche. Et voilà, il y a 40 ans, est-ce que ça semblait important? Je ne suis pas sûr.
J'aimerais bien qu'on revienne sur les jeux vidéo un peu plus en détail.
Pardon, Benjamin. Oui. Juste, moi, m'assurer que c'est ce que ce dont parlait Benjamin en groupant tout ça sous le terme d'échantillonnage. Échantillonnage, ça voulait bien dire ça, c'est-à-dire comment en fait on fait le tri en quelque sorte dans toutes ces informations extrêmement variées. Donc il y a un spectre auquel on ne pense même pas, enfin voilà. parfois certaines choses, on se dit ça pas d'intérêt à être archivé, sauf que c'est un marqueur de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, ne serait-ce que parce que c'est très utilisé. Enfin, il y a un facteur quantitatif aussi qui fait peser, en fait, du coup, entre guillemets, là pour le coup, c'est une forme d'algorithme. C'est qu'on va, il va falloir sélectionner certain nombre de choses. Donc, comment on le fait ? Suivant, par exemple, la quantité effectivement produite. Et du coup, on fait un échantillonnage ou une pondération qui va être, entre guillemets, linéaire. Ou alors, on va s'intéresser peut-être à la qualité ou d'autres choses. Enfin, il y a plein de possibilités de faire ça. Et c'est souvent un travail de statisticien. C'est ce qu'on fait dans les statistiques. Hein. C'est comment, à quel moment on estime qu'un échantillonnage devient, devient pertinent. Et c'est quand même une grande question et elle est fondamentale en fait pour ce genre de travail. Et c'est vrai que j'imagine qu'il y a plusieurs approches concurrentes.
Oui, bah c'est en discussion perpétuelle. J'allais dire conserver, c'est faire des choix en fait, c'est faire des sélections. On ne pourra jamais tout conserver. On va forcément se louper et les choses qu'on n'aura pas conservées vont s'avérer être importantes pour la suite. Après, ce qui est important dans les choix qu'on fait, c'est de les documenter. C'est de dire, ben voilà, on a suivi telle politique documentaire, on a choisi de conserver ça, ça et pas ça, pour que la recherche dans le futur puisse comprendre pourquoi il y a peut-être des lacunes ou des choses qu'on s'attendait à trouver qu'on ne va pas trouver. Mais voilà, il faut documenter ses choix et c'est ça qui est important.
Et pour revenir sur les histoires de représentativité, une des choses qui m'a marqué à la BNF, c'est que on a une excellente résolution quand il s'agit de la culture d'entreprise. C'est-à-dire que tous les supports vidéo qui vont être diffusés à l'interne dans les entreprises, comme les compagnies d'assurance, qui vont engager des graphistes ou des agences de com pour créer de la communication pour le prochain repas de Noël ou quelque chose, tout ça est extrêmement bien archivé. Et à côté de ça, au niveau de l'art numérique, on n'a peut-être pas la même résolution. Ce qui est peut-être, d'un point de vue qui est le mien, hein, qui est subjectif, qui est celui d'un artiste, un petit peu injuste, voilà, par rapport à l'importance culturelle que peuvent avoir ces choses, même si on entend bien que les catalogues de la Redoute, tout comme les supports internes d'entreprises, sont importants pour comprendre dans 100 ans comment se comportaient les entreprises aujourd'hui. Néanmoins, on est en train de faire face à ce naufrage. Et par contre, je suis très heureux quoi, quand j'entends qu'à la BNF, je parlais de lolcats, je ne sais pas si c'est compréhensible pour tout le monde, c'est les images qui circulent sur Internet avec des chats et qui font rire et qui nous rendent un peu idiots. Donc ces images, en fait, à la BNF, quelqu'un ou plusieurs personnes même se sont rendu compte que ça avait quand même une importance culturelle considérable et qu'il fallait en faire l'archive, n'est-ce pas ?
Voilà, mais alors on n'est pas si bon que ça pour les lolcats. On les récupère forcément dans toute la masse. Par contre, on se pose la question de savoir si on devrait créer une rubrique spécifique et comment la gérer et qui est le responsable des lolcats et comment on fait la sélection. Donc on pourrait être encore plus efficace sur les lolcats.
Mais d'après Jan van der Kruisen, qui interviendra demain, maintenant la mode est au chien. Donc bon, il va falloir choisir entre chat et chien, je crois.
Tout ça évolue trop vite.
Et oui, et peut-être que Vincent...
Peut-être que vous avez aussi envie d'intervenir, poser des questions. Ce Picma, là. Tiens, je te donne le micro, là.
Merci. Moi, j'ai une question sur, sur plus technique sur l'archivage. Comment la BNF fait, alors que beaucoup de ces plateformes sont finalement fermées? Ces plateformes privées, par exemple Facebook, je sais qu'on n'a pas le droit d'utiliser des bots pour scraper le contenu, donc pour le récupérer, pour l'archiver, etc. Et une autre question, c'est en termes de copyright, c'est deux questions en une, hein, c'est d'abord comment vous avez accès à toutes ces données et quelle est la légalité de l'accès à ces données, et la deuxième question, c'est quelle est la légalité de les archiver vis-à-vis des détenteurs de copyright de toutes ces œuvres, puisque normalement on n'a pas le droit de copier des œuvres pour les archiver, enfin d'en avoir des copies numériques comme ça. Donc voilà, c'est double question.
Alors il y a plusieurs questions. Alors techniquement, pour ce qui est le dépôt légal du web, on envoie des robots. C'est une technologie qu'on partage avec Internet Archive parce qu'on fait partie du même consortium et on a développé les mêmes outils. Donc c'est des robots qui vont aspirer les sites web. On respecte les règles dans la mesure où les robots se présentent et déposent un cookie disant je suis le robot de la BNF et je vais aspirer votre site, n'ayez pas peur. Donc parfois, ça ne suffit pas parce qu'effectivement, des sites comme Facebook ou YouTube ont des dispositifs anti-copie, anti-piratage, et quand ils voient que quelqu'un aspire trop de contenu, il se fait blacklister. Donc ça nous arrive régulièrement. Et donc on doit jouer au chat et à la souris et essayer de contourner ces limites techniques. Donc on y est confronté. Après, pour tout ce qui est sur support, parce que l'art numérique, on en a quand même. Hein. on a quelques centaines d'œuvres d'art numérique qui datent notamment de l'époque, j'allais dire, où c'était facile, où il y avait de l'édition d'art numérique sur support, sur CD-ROM, etc., où là, ça arrivait facilement chez nous. Pour tout ce qui est sur support, on va en faire des copies systématiquement. Alors, ce n'est pas de la numérisation, parce que c'est déjà la plupart du temps du numérique, mais on fait des copies, parce qu'on donne nos documents à consulter, surtout via de l'émulation, parce qu'on sait que les machines et les supports vont disparaître, même si on en prend soin. Donc, on fait des copies et on a le droit de contourner les mesures de protection. C'est dans le code du patrimoine, le code de la propriété intellectuelle, il y a des exceptions qui, si je ne dis pas de bêtises, sont des extensions en France du droit européen. On a le droit à des fins de conservation de faire des copies de tout ce qu'on reçoit. À des fins de conservation, c'est dans le droit, on est les seuls à avoir le droit de faire ça, parce que voilà, conserver du numérique, en fait, c'est faire tout le temps des copies. On a des supports qui sont obsolètes plus ou moins vite. Là, pour le moment, on stocke tout ce qu'on a de copies de numérique. On va le stocker sur des bandes LTO, donc des grosses bandes magnétiques, mais ça a une durée garantie par le constructeur de 30 ans. Donc dans 30 ans, il faudra recopier ces bandes sur d'autres bandes ou un autre support, s'il y a un nouveau support plus pérenne qui est apparu.
Est-ce que c'est possible de décrire un peu plus à quoi ressemble en fait une bande LTO ?
Une bande LTO, c'est une grosse cassette audio sur laquelle on va mettre plusieurs téras de données. Et c'est du stockage à froid, parce que c'est une question aussi qu'on pose de plus en plus souvent avec les questions écologiques. Gallica, ce qui est en ligne, c'est des serveurs qui tournent, mais le plus gros volume de données à la BNF, c'est stocké sur des bandes magnétiques que des robots vont aller prélever pour copier le contenu qu'on veut consulter sur un serveur le temps de la consultation. Ensuite, c'est effacé du serveur. Et entre-temps, le robot est allé ranger la bande magnétique dans une armoire de stockage et la bande est là, inerte, passive, en attendant qu'on ait besoin de la consulter à un autre moment. Donc voilà, en tout cas, le principe du dépôt légal, personne ne peut s'y opposer. Hein. C'est une obligation légale, le dépôt légal. Chaque éditeur ou distributeur est censé déposer, en théorie, sous peine d'amende. Hein. Si on ne dépose pas ce qu'on édite ou ce qu'on distribue en France, en théorie, on peut être frappé d'une amende. Ça n'arrive pas parce que on préfère avoir des bons rapports avec tout le monde et on fait plus de la pédagogie. Mais voilà, c'est une obligation, on ne peut pas s'y opposer. On ne peut pas s'opposer non plus à ce que ce soit consulté dans les emprises de la BNF. On offre des garanties. Hein. Il n'y a pas de prêt possible, il n'y a pas de copie possible. Tout ce qui est consulté à la BNF reste à la BNF. Alors après, on peut faire des copies pour des articles, etc. Mais voilà, les ayants droit sont protégés. Il y a des garanties comme ça qu'il n'y aura pas de piratage. Et il y a pas d'opposition possible et pas de choses à négocier à l'avance. On doit négocier, par contre, quand on fait des communications, des conférences, etc., qu'on donne à consulter du contenu de manière publique. Là, ça rentre dans le cadre du droit commun. On doit négocier les droits avec les éditeurs.
Je crois qu'on a une question.
Oui, je vais peut-être me présenter. Vincent m'a dit que ce serait bien pour la radio, j'imagine. Vous m'entendez ? Oui, je disais, je vais me présenter pour la radio. Donc, je m'appelle Alain Deneville, je suis un ancien étudiant de l'école et je suis maître de conférence à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Et j'aurais une question sur cette idée d'échantillonnage de la réalité dont tu parlais, Benjamin, en disant que ce qui serait le plus logique, si on veut rendre compte de la réalité, ce serait d'échantillonner au hasard dans une vision, tu disais, anarchiste. J'imagine qu'en disant ça, tu veux dire qu'il y a, si on fait des choix, on pose des valeurs, et ça mettrait des archives avec des valeurs, mais est-ce que ça résoudrait le problème en se disant que ce serait, en fait, un échantillonnage, ce serait juste mettre des valeurs qui seraient de dire qu'on pourrait vraiment rendre compte du réel si on était dans le hasard et qu'on saisissait au hasard. Est-ce que c'est pas déjà aussi quelque chose d'hyper biaisé en se disant que le réel sera retranscrit par ça et que le réel, c'est pas des sciences que l'humanité choisit, etc., etc. Je voulais t'interroger là-dessus, et j'imagine que ça rebondit sur le travail concret. Merci.
Ben, je pense qu'il y a deux vecteurs ici, et le premier vecteur, c'est le vecteur subjectif, c'est-à-dire qu'est-ce que quelqu'un qui travaille en conservation va être amené à aimer, et en quelle mesure favoriser les choses qu'une personne a pu rencontrer, c'est-à-dire a pu avoir le bonheur de trouver, en quelle mesure donner préséance à ça plutôt que le random absolu. En quelle mesure c'est juste? Moi, ça ne me paraît pas juste, puisque finalement, on aura forcément des phénomènes de mode qui vont être un petit peu, peut-être, tardifs par rapport à la manière dont émergent les formes artistiques. Donc ça veut dire qu'on va saisir le moment Picasso, mais pas le moment d'avant, quoi, en gros. Donc ça, ça ne me paraît pas viable dans un sens de qu'est-ce qui peut être juste. Après, dans l'autre sens, on a... Bon, alors le fantasme sur le random, etc., ça c'est peut-être quelque chose que Vincent pourrait préciser. En fait, l'arbitraire, ça n'existe pas. En fait, c'est une modélisation d'une forme d'arbitraire qui est d'ailleurs systématiquement, enfin très, très régulièrement, la même. C'est-à-dire que ça part d'un bruit, d'une génération de bruit qui vient d'un algorithme, et donc tous les signaux random en fait, se ressemblent. Donc la manière dont la répartition va se faire à travers du random, ce sera absolument pas random dans le sens absolu. Par contre, ce qu'on gagne si on fait ça, c'est qu'on enlève du pouvoir à des individus qui peuvent être biaisés, comme moi je suis biaisé dans, si je devais écrire mes 50 favoris choses des 50 dernières années, ce ne seraient pas les mêmes que vous, etc. Mais dans un sens, en fait, le tirage au sort, ça me semble être une voie qui n'est pas assez utilisée dans la démocratie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être plus impactant que le vote, en fait. Ça peut être quelque chose qui peut donner un accès à des choses qu'on ne verrait pas si on se fonde seulement sur les logiques de coercition qui émergent à travers le vote. C'est-à-dire dont toute notre société est basée sur l'idée qu'on a des choix. Mais en fait, si on arrêtait de choisir et qu'on laissait un petit peu des processus où l'humain se met en décalage ou en recul, je pense que ce serait assez intéressant. Et pour revenir sur la question de l'échantillonnage, tout simplement, en ce qui concerne la collection de la BNF et ce qu'on peut en voir sur Gallica, là, je fais un petit peu une pirouette, en fait, pour prêcher pour ma paroisse. Hein. C'est que Gallica protège le droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est quelque chose un peu sacré en France, c'est peut-être une exception culturelle, et qui est donc protégé au niveau ministériel hein, de l'État, le niveau institutionnel le plus élevé. Mais si on se place depuis mon point de vue, c'est-à-dire moi j'utilise beaucoup YouTube pour archiver mes vidéos au cas où mon disque dur meurt, en fait moi, mon droit d'auteur, dans ce cas-là, on a bien compris que j'étais prêt à le vendre en fait, et que j'en avais un petit peu rien à faire. Donc pour les gens comme moi qui sont prêts à sacrifier leur droit d'auteur, est-ce que ce ne serait pas mieux de pouvoir donner accès à des outils comme Gallica pour stocker des choses plutôt que de rester sur des options comme YouTube, sachant qu'en plus la BNF, comme on l'a compris avec les bandes LTO, en fait dispose de garanties pour la préservation des choses que YouTube ne... Voilà, il n'en est pas question, quoi. On ne sait pas ce qui va advenir de YouTube dans 2 ans. Donc moi ça m'intéresse, cette histoire-là de refuser les droits auxquels on a accès, en fait. Par exemple, le droit d'auteur, en quelle mesure tous les objets que j'ai produits le nécessitent? Oui, alors quand je compose une musique de film, je veux bien qu'on respecte ça, et quand il y a de l'argent qui est fait, il faut aussi que ce soit partagé entre les auteurs. Mais quand c'est une vidéo que j'ai faite à titre gratuit pour pouvoir être diffusée à titre gratuit, alors dans ce cas-là, peut-être que ce serait mieux que l'échantillonnage se fasse non pas sur une base arbitraire, ni sur une base affinitaire ou de choix, mais de bonne volonté. Ça veut dire participer, chacun chacune, à l'échantillonnage d'une réalité en déposant. Alors, on a d'autres options que YouTube. On peut avoir Internet Archive, on peut avoir PeerTube, mais ce sont des solutions qui n'offrent pas de garantie. Et dans l'idée d'avoir une bonne résolution d'études dans 100 ans, 200 ans, je sais pas, on est au moment où il faut y réfléchir, je crois.
Moi, je note que tu es parti de l'échantillonnage pour arriver à la question de la copie. Bonjour. Du droit d'auteur, c'est intéressant. Pardon.
Moi, j'ai une question pour l'archivage en fait, des parties multi-utilisateurs, multi-utilisatrices. Par exemple, pendant le confinement, on a vu que Fortnite a révélé une culture immense, quoi. Tous les ados, pas que ados, on jouait à Battle Royale. Tout ça, ça fait partie de la culture. Comment vous faites pour toutes ces parties que ce soit là ou Minecraft, ou vraiment ce qui marque notre culture, mais qui est, quand tu as 1000 joueurs, comment tu fais? Tu ne vas pas demander 1000 autorisations. Et comment vous avez gardé cette mémoire que nous aimons?
Alors, pendant le confinement, on a beaucoup travaillé. Parce qu'on était en travail à distance, et donc tout le travail qu'on fait habituellement en bibliothèque à classer des documents, à ouvrir des salles de lecture, on ne pouvait pas le faire, donc on avait du temps pour s'occuper de l'archivage du web. Donc il y a beaucoup de collègues qui ont travaillé à identifier sur le web ce qui était justement pratique, propre, spécifique à cette période très particulière, et on a archivé beaucoup plus que d'habitude pour tout ce qui était contenu web. Après, la question que vous posez là, si on se réfère à Fortnite et à tout ce qui est jeux en ligne, multijoueurs, tous les contenus qui reposent sur des communautés, ça nous pose forcément plein de problèmes. Parce que c'est si je prends le cas des jeux multijoueurs, même si c'est des jeux qui sont encore édités sur support et qu'on reçoit les DVD-ROM, les Blu-ray à la BNF, qu'on peut les archiver, imaginons qu'on soit dans 100 ans en mesure de les faire tourner sur un serveur, on va se retrouver dans un monde vide. Donc on a, alors si on veut étudier les graphismes d'un jeu multijoueur, si on se retrouve dans World of Warcraft et qu'on est tout seul, c'est pas très grave. Si on veut faire de la socio ou voir les interactions entre les joueurs, on les a plus. Donc là, les événements éphémères dans des jeux en ligne comme Fortnite, c'est un petit peu la même chose. Pour tous ces jeux et tous ces contenus dont on sait qu'on ne sera plus en mesure de les rejouer à l'avenir, même si on a récupéré le basique, on a une réflexion en cours autour de ce que les chercheurs québécois appellent les archives de la jouabilité. Alors nous, les archives de la jouabilité, c'est plus pour garder la trace de la jouabilité d'un jeu. Nous, on réfléchit aux archives de la jouabilité, et ce qu'on appelle les documents annexes. Justement, tout ce qui est trace et témoignage de ces expériences qui auront existé et qu'on ne sera plus en mesure de donner à voir, de rejouer. Alors on a la chance à la BNF d'avoir via le dépôt légal plein d'autres choses qui sont des témoignages aussi. On a tous les ouvrages qui sont édités autour d'un sujet, on a toute la presse spécialisée, alors par exemple on a toute la presse jeux vidéo. Maintenant on a les archives du web, donc tout ce qui est sites professionnels qui parlent des jeux, du multimédia, les blogs, les forums, les sites perso. Tout ça aussi, on en a des terras et des teraoctets de données qui sont archivées et dans lesquelles on va pouvoir travailler. On récupère des vidéos sur YouTube, sur Dailymotion, donc on a des vidéos de partie aussi, mais très peu par rapport à tout ce qui existe. Donc on réfléchit beaucoup à comment mettre en commun tout ce qu'on a déjà et à le compléter, notamment dans le cas des jeux, par enregistrer des vidéos de partie. Mais c'est pareil, enregistrer une partie de jeu, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on enregistre le in-game? Est-ce qu'on enregistre aussi de manière plus large la personne en train de jouer? Les doigts sur la manette, les interactions entre les personnes devant l'écran, si c'est du multijoueur, enfin il y a plein de façons de filmer une partie de jeu, c'est pas seulement de faire de la captation d'un speedrun. Donc voilà, on réfléchit à ce qu'on a déjà, comment tout centraliser et qu'un chercheur dans le futur puisse savoir sur tel jeu on a toutes ces données qui sont éparses et pouvoir les consulter de manière centrale, et puis peut-être compléter tout ça. Alors on sort un peu de nos missions de dépôt légal, mais compléter ça par des témoignages, et notamment des témoignages vidéo qui permettrait de documenter ces pratiques. C'est vraiment une amorce de réflexion, il y a beaucoup de choses à faire.
Je suis très content qu'il y ait eu une question sur Fortnite, parce que un des enjeux de ce colloque, c'est quand même d'être aux Beaux-Arts et de parler notamment de jeux vidéo. Jeux vidéo comme forme d'art ou alors comme lieu de l'art. Parce que là, comme on parlait de Fortnite, dans ce sens-là, ça devient un lieu où il peut se passer des choses qui peuvent être de nature artistique. Et j'en finis sur cette remarque simplement en disant que Une des pistes dont on a pu discuter, et notamment à l'occasion d'un colloque qui a eu lieu à la fin de l'année dernière à la BNF sur ces questions de l'archive de la jouabilité, c'était en réaction en fait à une proposition de Mathieu Triclot qui fait de la rythme analyse. C'est-à-dire que lui, ce qu'il propose en fait, c'est d'enregistrer les mouvements des joueurs, de plein de joueurs et joueuses, donc un échantillon encore, qui vont jouer par exemple à Tetris. Et alors, qui appuie sur quel bouton, à quel moment, à quelle vitesse? Est-ce qu'on peut distinguer les jeux par leur rythmicité propre, etc.? Et donc ça, c'est une forme d'analyse des jeux pour dire quelque chose sur ces jeux-là, mais dans une perspective d'archivage, en fait. On pourrait, comme l'a évoqué David, enregistrer les séquences de contrôle de joueurs et joueuses individuels, ou alors même éventuellement, si on arrive à en fait, pratiquement pirater les serveurs centralisés sur Fortnite. Il faudrait avoir des communautés limitées pour donner des parties de test. Mais en fait, on pourrait, théoriquement, et j'ai aucune idée de comment ça peut être mis en pratique, hein, mais théoriquement, on pourrait enregistrer les suites de signaux de contrôle envoyés par 10 personnes jouant à Fortnite. Ce qui voudrait dire que 10 ans plus tard, on pourrait, éventuellement, si Fortnite accepte de nous donner une version du jeu qui peut se jouer hors ligne, faire rejouer devant nous une partie telle qu'elle a été jouée. Et ce qui permettrait de se balader soit en tant que caméra libre, soit en tant que, je sais pas, avec une visualisation un petit peu spécifique, hein, pour voir quel joueur-joueuse fait quel type d'action, comment les interactions se passent, et pour pouvoir rejouer en fait plusieurs fois pour comprendre vraiment les modes d'interaction. Et ça, moi, je trouve ça hyper stimulant, en fait.
Oui, bah, quand on enregistre les inputs d'une partie, ça peut ressembler à une partition, ce qu'on obtient. C'est des notes qu'on doit jouer, il faut appuyer sur tel bouton à tel moment. Voilà. Puis après, il y a la question plus générale que tu évoquais. Est-ce que le jeu vidéo, c'est un art ? Est-ce que fabriquer un jeu vidéo, c'est un art ? Est-ce que le jeu vidéo, c'est un art total ? Comme on a pu le dire, il y a une expo chez Art Ludique, le jeu vidéo art total. Ou est-ce... Alors, il y a des chercheurs qui s'opposent à cette notion-là, parce que qui estiment que le jeu vidéo en tant que tel, c'est une conjugaison de plusieurs arts, mais que c'est un art en tant que tel, que le gameplay, le game design, c'est une forme d'art. Est-ce que jouer à un jeu vidéo, c'est un art ? Est-ce que le speedrun, c'est de l'art ?
Et cette question de la jouabilité comme forme d'art, elle devient d'autant plus intéressante, hein, dès le moment où on se pose la question sous un angle un petit peu musicologique. C'est-à-dire, David a évoqué le terme de partition, ça c'est peut-être une vision d'un jeu vidéo comme une partition qu'après les joueurs et joueuses vont activer, mais une autre vision, ce serait peut-être plus proche de l'approche musicale de Vincent, en fait, c'est-à-dire de l'improvisation. Est-ce qu'à partir d'une grille d'accords, on va comparer un des éléments de gameplay à des grilles d'accords et à une séquence rythmique, à partir de là, le fait de jouer à un jeu, c'est peut-être aussi... improvisé, quoi. Ce qui s'illustre un petit peu dans le dernier Mario, d'ailleurs, qui est sorti, hein, puisqu'on peut sauter sur des notes de piano qui sont de toute façon réglées de manière à ce que toutes les notes puissent être valables dans l'ambiance musicale donnée. Mais jouer à ce jeu-là, à ce moment-là, dans cette scène-là, c'est littéralement improvisé musicalement, quoi. Je sais pas si Vincent, ça te donne des idées.
J'ai l'impression qu'on dérive lentement, mais c'est intéressant de parler du jeu vidéo quand même. Ça, c'est clair. Enfin, et puis plus globalement, j'allais dire, moi, de ce qu'on appelle l'art immersif. Alors bon, c'est un grand mot aussi, mais dans l'espèce de volonté de recréer un monde qu'on dit virtuel, en tout cas à côté du monde réel, dans lequel on vivrait une bonne partie de sa vie. Donc effectivement, j'imagine que pour les archéologues du futur, il va falloir quand même avoir des archives de ça. C'est comme ça que moi je l'entends. Après, sur l'improvisation dans le jeu vidéo, je suis moins... à partir du moment où on recrée les conditions pour exercer en fait une vie virtuelle à côté de notre vie réelle, j'imagine qu'on peut improviser effectivement tout comme on improvise dans la vie réelle. Enfin, j'espère en tout cas. J'espère que ça nous est au moins autorisé. Je joue plus trop moi aux jeux vidéo, j'ai joué quand je... Bon, mais j'en doute pas. Hein. Effectivement, il y a quand même toujours une part d'improvisation, mais faut bien avouer aussi que les jeux vidéo, moi je le vois comme ça, c'est quand même une partition écrite avec des possibilités qui sont offertes, mais qui sont réduites en fait, qui sont réduites aussi au choix à la fois des codeurs et des game designers, et que c'est quand même des vies à cases quoi. Et je pense que là, on change un petit peu de sujet, mais c'est passionnant parce qu'effectivement, en tout cas, ça permet de réactiver la notion d'archive aujourd'hui en sachant que, il y a ça qui se passe, il y a des gens qui passent des heures, une bonne partie de leur journée dans des mondes comme ça. Donc forcément, c'est ça. Enfin, j'imagine que pour les historiens, c'est important.
Dans des mondes comme ça, ou alors sur Twitch, à regarder des gens qui sont dans des mondes comme ça, etc. Ce qui va être donc l'occasion de parler de choix, de qu'est-ce qui est une œuvre d'art ou pas.